en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Monsieur le Grand Chancelier, Madame la Surintendante des Maisons d'Éducation de la Légion d'Honneur, Mesdames et Messieurs les Académiciens, Mesdames et Messieurs, tout court, j'allais dire, c'est un très grand honneur pour moi, aujourd'hui, de présenter en fait cette exposition qui se tient jusqu'au 6 juillet au Musée de la Chartreuse. Et c'est un honneur d'autant plus grand qu'en ce qui me concerne, il sera très court, puisque tout le travail a en réalité été assumé par mes deux commissaires scientifiques. Je prends le pronom possessif volontairement, puisqu'elles ont été vraiment formidables et extrêmement disponibles. Et j'ai donc pensé que toutes deux, il en revenait le mérite à chacune de présenter les travaux encore largement méconnus d'une histoire partagée avec nos voisins allemands, belges, et évidemment avec les populations du nord de la France. Que s'est-il passé pendant la Première Guerre mondiale en ce qui concerne le patrimoine ? Alors, Christina Cotte nous a fait le grand plaisir de nous aider, nous, Musée de la Chartreuse et Ville de Douai, lorsque nous avons été engagés dans une bataille juridique qui a duré à peu près 11 ans pour récupérer un tableau de Jules Breton, académicien d'ailleurs, Jules Breton, tableau volé en septembre 1918, au moment où l'armée allemande, qui occupait encore la ville de Douai, avait déporté la population. La ville était donc pratiquement vidée de ses habitants, et les unités allemandes qui battaient en retraite se sont livrées à un pillage généralisé du musée. C'était l'histoire, moi, que je connaissais, et c'était la seule que je connaissais. Et au fur et à mesure que nous avons dû documenter l'histoire de ce tableau, parce que nous avons d'abord travaillé avec la police française, ensuite la police allemande, et puis pour finir, le FBI et Interpol à Washington. Et oui, parfois, Douai offre de surprenantes perspectives, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes rentrés en contact, Christina Cotte et moi-même, puisque c'est elle qui, par ses travaux, Christina est historienne, elle est maître de conférence à l'Université de Paris 2 et surtout spécialiste du Kunstschutz allemand pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est elle vraiment qui a travaillé de concert avec nous pour que nous puissions obtenir la restitution de ce tableau qui est effectivement intervenu le 14 octobre 2011 à Washington en présence de Monsieur l'ambassadeur de France aux États-Unis, du procureur de New York et du directeur d'Interpol, Washington. Donc un grand moment dans ma carrière, incontestablement. Et puis avec Christina, nous avons réfléchi à la perspective d'en faire une exposition et donc d'expliquer ce qu'avait été l'attitude des Allemands vis-à-vis du patrimoine de leurs ennemis belges et en particulier français. C'est ce que nous ciblons dans l'exposition. Et Christina était très bon conseil. Elle m'a dit qu'au fond, l'exposition, à peu près 100 ans après les faits, pouvait également présenter ce qu'avaient fait les Français. Et ça, nous, du coup, nous nous sommes mis en contact avec Gaëlle Pichon-Meunier, qui est chargée d'études documentaires, pardon, responsable des archives courantes et de la documentation des objets mobiliers à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine de Charenton-le-Pont. Nous nous sommes rencontrées toutes les trois, donc, pour concevoir un parcours qui présente à la fois les mesures prises par les Allemands en matière de protection du patrimoine et celles prises par les Français entre 1914 et 1918 sur un territoire similaire, traversé par la ligne de front, et évidemment une histoire extrêmement douloureuse et très méconnue. Je vais m'arrêter là très rapidement pour leur céder à toutes deux la parole, puisque ce sont elles qui ont engagé ces recherches scientifiques, et ce sont elles qui seront impatientes, je n'en doute pas, de vous les présenter dans quelques minutes. Donc Christina commencera, et elle sera suivie de Gaëlle, et je me tiens bien entendu à votre disposition à la fin de la conférence pour répondre à toutes questions que vous pourriez avoir sur cette question, cette problématique de restitution, encore, elle aussi, largement méconnue, des œuvres disparues des collections publiques françaises pendant la Première Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avance de votre attention et je vous souhaite un immense plaisir. Le mien a été total à la découverte du travail de Mesdames Cotte et Pichon-Meunier.
Merci pour cette introduction. Je commence donc tout de suite. Je rentre dans le vif du sujet. Pardon. Oui,
rapprochez votre micro. Voilà. Merci.
Voilà, j'essaye de. Donc, je rentre dans le vif du sujet, comment préserver le patrimoine en 1914-1918 ? En effet, les contemporains se sont posé la même question. Ils étaient assez démunis de voir les énormes destructions du patrimoine causées par les opérations de guerre. Peu de pays belligérants ont exécuté des mesures préventives et se trouvaient devant la question comment faire pour tenir en dehors des combats le patrimoine mobilier et immobilier. Plusieurs pays ont mis en place des mesures de protection. Pas uniquement la France et l'Allemagne, mais aussi, comme vous voyez ici, l'Italie, qui a entrepris des mesures de protection assez importantes, notamment à Venise, dans la basilique Saint-Marc, où on a protégé, à l'aide de sacs de sable, des statues. La même question s'est posée pour le patrimoine mobilier. La question était plus délicate pour ce genre de patrimoine, puisqu'il fallait décider de évacuer ou non les œuvres mobilières. Vous voyez ici, à droite, des statues emballées prêtes pour le transport, à Venise également. D'autres pays ont mis en œuvre des mesures similaires. Je ne peux pas tous les citer. Je vais donc me pencher plus particulièrement sur l'Allemagne. En l'occurrence, pays envahisseur, d'où la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut préserver le patrimoine d'un ennemi ? Et cela a été le cas, mais nous allons voir sous quelles conditions et qui étaient les personnes qui ont œuvré à cette protection, que je mettrai toujours entre guillemets. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, la guerre commence par des destructions très importantes du patrimoine qu'on peut appeler les atrocités culturelles, qui ont provoqué une importante campagne de propagande et ensuite également de contre-propagande. Vous connaissez peut-être tous le cas de la cathédrale de Reims, bombardée par les Allemands, puis un peu auparavant, l'incendie de Louvain, dont la bibliothèque universitaire a été complètement anéantie en août 14 par des troupes allemandes qui pensaient avoir en face d'eux des francs-tireurs belges. En fait, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, une psychose qui provenait de la guerre de 1870-71. Ces deux événements très symbolique, très fort, ont donc provoqué des réactions du côté allemand. Les Allemands ont prétendu que la cathédrale de Reims avait été utilisée comme point d'observation de l'armée française et que des canons avaient été posés près de la cathédrale. Ceci étant contre les stipulations de la Convention de La Haye de 1907, qui était la première convention internationale à intégrer des clauses pour la protection du patrimoine en temps de guerre, à condition que le patrimoine en question ne soit pas utilisé à des fins militaires. Les Allemands, donc, surtout les intellectuels, se défendent contre les accusations de barbarie de vandalisme en publiant des manifestes, comme celui qui est très connu, manifeste des 93, ou l'appel des intellectuels allemands d'octobre 1914, qui a été immédiatement traduit en français. Et dans ce manifeste, il est dit, si, je cite, « si dans cette guerre terrible, des œuvres d'art ont été détruites, où l'était un jour, voilà ce que tout Allemand déplorera sincèrement. Tout en contestant d'être inférieur à aucune autre nation dans notre amour de l'art, nous refusons énergiquement d'acheter la conservation d'une œuvre d'art au prix d'une défaite de nos armées. » On peut imaginer aussi, s'agissant d'intellectuels, d'historiens de l'art, de conservateurs de musées, qui se trouvaient dans un dilemme, tiraillés entre leur devoir patriotique et leur amour du patrimoine, et pour certains, du patrimoine artistique français, notamment, parce que celui-ci constituait également leur objet de recherche. C'est donc fin août 1914 que plusieurs personnalités de la vie culturelle, des conservateurs de musées, comme Wilhelm von Bode, que vous voyez à gauche, ou encore Paul Klemann, qui était conservateur du patrimoine de la Rhénanie, et personnage ô combien illustre, Ludwig Borchardt, un égyptologue qui venait tout juste de découvrir la tête de Nefertiti, 1913, tous ces personnages, tous ces intellectuels ont immédiatement réagi et exigé, revendiqué la mise en place d'un service de protection rattaché aux armées allemandes. Ce service était d'abord mis en place en Belgique. Et le directeur des musées des arts décoratifs de Berlin, Otto von Falke, est envoyé en Belgique pour inspecter les dégâts et proposer des mesures d'urgence dans le territoire occupé. Parfois, il était en compagnie de ses homologues belges, comme par exemple Joseph Destré, conservateur du musée du cinquantenaire. Selon von Falke, les dégâts étaient beaucoup moins importants que ce que les rapports de la presse alliée faisaient croire. Certes, sa mission était d'abord une opération de séduction dans une perspective de propagande et de contrôle du patrimoine artistique. Mais ce Kunstschutz est intégré par la suite dans la politique culturelle du gouvernement général allemand. Par exemple, le gouverneur général von Bissing pose pour la presse le 7 février 1915 au musée moderne de Bruxelles devant des œuvres de Constantin Meunier. Le Kunstschutz est donc intégré dans la politique culturelle et instrumentalisé dans le cadre de sa Flammenpolitik, la politique en faveur de la population flamande. Mais sa mise en place correspond également à une réelle volonté de préservation du patrimoine artistique belge, qui est, du moins dans sa partie flamande, considérée comme appartenant à la sphère culturelle germanique. Dans la perspective d'un quelconque rattachement de la Belgique à l'Allemagne, la bonne conservation de son patrimoine faisait partie des obligations de l'administration allemande. Nous voyons ici quelques exemples de cette politique culturelle. L'organisation d'expositions. Ensuite, aussi, des travaux scientifiques de recherche, notamment, par exemple, sur les ruines de l'abbaye d'Orval, où des architectes allemands ont travaillé vers 1915-1916 en faisant des relevés des ruines de cette abbaye. Et nous voyons ici aussi donc, l'utilisation, l'instrumentalisation de ces recherches dans le cadre de la politique culturelle Là, donc vous voyez le gouverneur général allemand en Belgique qui est en visite à Orval, qui se fait prendre en photo devant les ruines de l'abbaye. Le projet d'inventorisation photographique rassemble une vingtaine d'historiens de l'art et d'architectes allemands, et il se conclut par la réalisation d'environ 10 000 à 11 000 clichés de grande qualité. Il s'agit en même temps d'une sorte de prise de possession symbolique du patrimoine artistique belge par la prise de vue photographique. Et là, vous avez un cliché où on voit encore les traces de l'occupation dans un livre publié en 1923, après la guerre, et qui montre un très grand nombre de photos de cet inventaire photographique, d'ailleurs organisé et initié par le même Paul Klemen, que nous avons vu tout à l'heure. Si en Belgique, des confiscations dans les collections publiques n'ont pas eu lieu, on peut néanmoins parler de tentatives d'appropriation culturelle et scientifique de son patrimoine par l'occupant dans la perspective d'un rattachement de la Belgique à l'Allemagne. Je viens l'inventaire photographique s'est limité normalement à la Belgique, mais il y a eu quelques incursions en France, notamment la cathédrale de Laon a été prise en photo par un certain Richard Hamann, qui était le fondateur du séminaire d'histoire de l'art de l'Université de Marbourg et des archives photographiques de l'Université de Marbourg. Donc on le voit ici avec son appareil photo. Je viens donc à la France maintenant, puisque les premiers projets pour la mise en place d'un tel service prévoyaient également l'envoi d'historiens de l'art en France. Paul Klemen avait fait certes quelques voyages d'inspection, mais malgré l'accord de principe de l'empereur Guillaume II, la mise en place du Kunstschutz en France est d'abord retardée, faute de pouvoir rattacher les experts artistiques à une administration civile d'occupation, comme en Belgique. Quelques mesures avaient été prises déjà par quelques personnages, comme Johann Baptist Koene, qui était le directeur du musée de Metz, qui était responsable du patrimoine artistique de la Moselle et qui a entrepris quelques mesures déjà dès 1915. On le voit ici dans la bibliothèque de Saint-Mihiel, partiellement détruite en 1915. Il entreprend également des évacuations d'œuvres d'art, comme par exemple ici la crucifixion de Ligier Richier, qui a été mise à l'abri par lui à Metz, donc en territoire allemand, ce qui n'était pas autorisé selon les conventions internationales. Il a également protégé in situ des œuvres de Ligier Richier à Saint-Mihiel. Il a entrepris également des fouilles, puisqu'il était archéologue et il continuait à fouiller dans ces territoires. Mais ce n'est que dans le cadre d'un projet de confiscation stratégique, d'un plan de saisie d'œuvres d'art, en vue des négociations de paix qu'on croyait proches, que le service du Kunstschutz est mis en place en France. En effet, le plan de Wilhelm von Bode, que vous avez vu tout à l'heure, directeur général du musée de Berlin, prévoyait la confiscation de quelques chefs-d'œuvre des musées du Nord afin de servir de monnaie d'échange pour des œuvres d'art allemandes saisies pendant les campagnes napoléoniennes et qui n'avaient pas été restituées par la France en 1815. Suite à la demande de Bode, les musées allemands concernés par ces pertes préparaient des listes d'objets, d'œuvres d'art, de livres et de manuscrits également. Des commissions se sont formées à Berlin afin de coordonner ces travaux. Deux œuvres quittent sous la force le territoire français en raison de leur prétendue appartenance au patrimoine historique allemand. Ici, vous vous en voyez trois, mais il n'y a que deux qui ont quitté la France. Il s'agit du tableau de Jean-Baptiste Piazzetta, l'Ascension de la Vierge Marie, qui se trouvait à l'époque au musée de Louvre, et la tapisserie du tournoi, qu'on ne voit pas très bien ici, j'en suis désolée, une tapisserie du musée de Valenciennes, qui aurait été donc confisquée par les armées napoléoniennes et que les Allemands transportent en Allemagne. Si la tapisserie du tournoi est retournée très rapidement, le tableau de Jean-Baptiste Piazzetta sera restauré à Berlin et ne sera rendu qu'en 1919. Le troisième tableau, le Bélisaire demandant l'aumône, a été envisagé comme otage, mais n'a jamais été réclamé par l'Allemagne. Les Allemands en ont profité également pour faire des expositions. Mais ces expositions étaient liées à des projets d'évacuation, puisque en 1916 a eu, donc, comme vous le savez, la bataille de la Somme. Et quelque temps plus tard, début 1917, les armées allemandes ont entamé leur grand retrait stratégique sur la ligne Hindenburg. Ceci mettait en péril une large zone qui était très très riche en patrimoine artistique. Et il était clair que les troupes allemandes allaient pratiquer la politique de la terre brûlée. Donc, il fallait anticiper ces destructions et puis également aussi les bombardements de l'ennemi. Ici, vous voyez par exemple le musée de Péronne qui se trouvait à l'époque dans la mairie de Péronne et qui a été détruit par l'artillerie britannique. Ce cliché a été pris par Detlef von Hadeln, l'un des historiens d'art allemand que nous allons rencontrer plus tard. À l'été 1916, l'historien de l'art berlinois Theodor Demmler est nommé responsable du service de protection en France. Il est chargé non seulement du recensement et de la sélection des œuvres d'art susceptibles de servir d'otage ou de gage, mais aussi de la préservation d'un grand nombre d'autres objets qui risquent de périr lors du retrait allemand, donc sur la ligne Hindenburg. Nombre de collections publiques et privées sont donc éloignées du front par Theodor Demmler, par Detlef von Hadeln également, et d'autres collègues qui ont été nommés dans les différents secteurs des armées allemandes. Ces collections artistiques sont déposées dans des dépôts sur le sol français, puisque malgré l'insistance de Wilhelm von Bode, qui aurait bien voulu les transporter en Allemagne, les diplomates des affaires étrangères allemandes ont strictement refusé de donner leur autorisation à ce genre de procédure. Le premier musée à être évacué est le musée Antoine Lécuyer à Saint-Quentin. Ces collections sont sélectionnées et envoyées en 14 voitures sanitaires allemandes à Maubeuge. À Maubeuge, Detlef von Hadeln met en place un petit musée au nom très drôle, au pauvre diable, du nom du grand magasin où se trouvait cet étrange petit musée. Pourquoi organiser des musées? Simplement pour d'abord pour montrer que les œuvres étaient bien restées en France, également pour montrer la supériorité de la muséographie allemande, qui était basée sur les principes de présentation mixte mis en place par Wilhelm von Bode à Berlin, c'est-à-dire le mélange de sculptures, d'œuvres d'art et de meubles d'une même époque dans un même espace. Je vous montre une autre photo de ce drôle de musée, la salle Louis-Philippe. Et j'ai oublié de dire que ici, donc, le joyau de l'exposition était évidemment les pastels de Maurice Quentin de la Tour Saint-Quentin. D'autres musées ont également été évacués, comme le musée de Lille, très emblématique pour le projet de saisie, mais également pour la richesse de ses collections. Et à Lille, comme à Saint-Quentin d'ailleurs, les conservateurs français et les responsables des collections se sont vivement opposés à ces transports d'œuvres d'art organisés par l'occupant allemand, d'où des rumeurs qui circulaient donc ensuite sur le cambriolage du musée de Lille par le directeur des musées de Berlin. Ensuite, comme ici à Douai, on le voit mal, mais ici on peut reconnaître Douai, et pour le nom du maire de Douai, Charles Bertin, et la signature de Daimler, on exigeait une espèce d'accord très ambigu, bien sûr, sur le déplacement des collections artistiques qui, comme celles de Lille, ont été transportées à Valenciennes, au musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Ici, nous avons d'autres témoignages de ces transports faits avec des voitures de déménagement et ensuite par train. Au musée de Valenciennes également, on envisage l'ouverture d'une exposition. Et ici, donc, vous voyez quelques photos du musée de Valenciennes réorganisé par les conservateurs d'art et les historiens de l'art allemands. Vous voyez donc la distribution des salles. L'accent de cette exposition était clairement mis sur la peinture flamande et néerlandaise, et l'apogée de l'exposition était la salle Rubens. Cette exposition a duré donc de 1917 à 1918 et le catalogue a été publié à la fin de l'occupation et il n'a pas eu beaucoup de lecteurs, j'imagine. Les sous-sols du musée de Valenciennes abritaient des collections publiques et privées des villes du Nord, dont voici deux exemples. Là, vous voyez des tableaux et là, on voit clairement les noms des propriétaires privés de collections artistiques qui avaient déposé leurs collections dans des caisses en bois dans les sous-sols du musée de Valenciennes. Un autre aspect de cette activité allemande à Valenciennes, ici donc vous voyez le conservateur allemand Hermann Burck, qui examine un tableau qui provient donc du musée Jeanne d'Aboville de la Fère. On le reconnaît ici, et ça, c'est un gardien du musée de Valenciennes. Donc, on continue le travail scientifique sur les collections. On change même parfois les attributions de peinture, comme si on était au temps de paix. On entreprend également des recherches qui ensuite ont été publiées dans ces publications, par exemple sur Douai, un livre sur les villes et les, sur, les, sur le patrimoine artistique de Douai, écrit par Christian Rauch, qui était aussi un historien d'art et un professeur d'histoire de l'art en Allemagne. Ensuite vient donc la débâcle de l'armée allemande et comme Anne Labourdette l'a déjà évoqué, les musées ont été également victimes de pillages. Et ici, nous avons par exemple une photo très impressionnante du musée de Douai, prise en octobre 1918, après donc, le départ des troupes allemandes. Et on se demande bien que sont devenues ces peintures. Est-ce qu'ils ont été pillés ou sauvés? Puisque, en effet, vers octobre 1918, les historiens de l'art allemand du Kunstschutz ont entrepris des évacuations à la hâte, avec les moyens du bord, des chalands, des voitures de déménagement, des camions, mais évidemment, on pouvait tout à fait les confondre avec des pilleurs. La différence n'était plus très grande, mais nous avons aujourd'hui des témoignages de ces historiens de l'art qui montrent bien que leur but, c'était de sauver et non pas de piller. Que sont devenues donc toutes ces collections rassemblées à Valenciennes? Eh bien, elles ont été également évacuées, non pas en Allemagne, mais à Bruxelles, avec l'accord des autorités françaises en question, mais elles étaient sous la pression, elles n'avaient plus vraiment le choix, puisque la ville allait être victime des pillages et aussi des inondations provoquées par l'armée allemande. Et donc, les maires des villes propriétaires des collections ont donné leur accord pour évacuer ces milliers d'œuvres d'art à bord de péniches à Bruxelles. Ils ont accompagné ces transports. Et une fois que les bateaux étaient arrivés à Bruxelles, juste avant l'armistice, les collections ont été prises en charge par les conservateurs de musées belges. Et finalement, le 14 novembre 1918, ces collections ont été remises à leurs propriétaires français à Bruxelles. Je termine presque. La période de l'après-guerre a été surtout marquée par les inventaires de ces collections restées à Bruxelles, comme ici, vous voyez par exemple une salle au Musée moderne avec les œuvres d'art des villes françaises. Là, on arrive à déchiffrer le nom de Douai. Donc, toutes ces œuvres ont été donc transportées à Bruxelles et il fallait maintenant les inventorier et les restituer à leurs propriétaires. Cette époque a été donc marquée par de vives tensions entre anciens belligérants autour de la question du patrimoine artistique. Et évidemment, les Français avaient du mal à reconnaître les efforts du Kunstschutz allemand dans la conservation de ses œuvres et ont réclamé des compensations en nature, selon la devise « Le Bosch payera en œuvres d'art ». Mais ça n'a pas eu lieu, puisque pendant les négociations pour le traité de paix, il n'était plus question de compensation pour la France, alors que la Belgique a obtenu la remise de quelques tableaux qui avaient été achetés légalement par les musées allemands, mais comme une sorte de compensation morale pour les pertes patrimoniales. Voilà, je m'arrête là et je donne la parole à ma collègue.
Pendant la Première Guerre mondiale, environ 30 000 œuvres d'art françaises auront été concernées par les opérations de protection et d'évacuation. Les archives conservées à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine permettent de préciser plusieurs facettes de cette période de l'histoire du patrimoine mobilier national. Sur ce sujet, Jean-Daniel Parizet, directeur de la médiathèque et conservateur général du patrimoine, a souhaité, dès 1996, lancer un programme d'inventaire de ce fonds intitulé « Archives des monuments historiques pendant les guerres 14-18 et 39-45 », qui regroupe les enquêtes successives commandées par l'administration des Beaux-Arts, la correspondance et les rapports d'activité des chefs de secteur, les inventaires des œuvres par localité ou par lieu de dépôt, les dossiers d'évaluation des dommages de guerre et les dossiers de restitution des objets d'art conservés dans les dépôts français et allemands. Au fort de Saint-Cyr, à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, sont conservées les archives photographiques, clichés, tirages, registres de prise de vue et carnets des opérateurs de guerre, triés et inventoriés depuis 2008 par ma collègue Anne Fourestier. Une partie des clichés numérisés est consultable dans la base de données mémoire. Côté français, tout commence rue de Valois. En août 1914, la France n'a pas de plan à appliquer face à l'état d'urgence de la guerre. Malgré tout, l'État dispose pour chaque département d'une liste des objets et des monuments les plus remarquables, élaborée et sans cesse enrichie depuis 1840 pour les édifices et depuis 1887 pour les objets mobiliers. À cette date, plus de 20 000 objets mobiliers sont classés dans toute la France, dont environ un millier dans le Nord. Grâce au classement, l'histoire de ces œuvres, qui font partie du domaine public, nous est connue. Il semble un temps tout au moins que les mesures de préservation prises dans les premiers mois de la guerre par le Bureau des monuments historiques au sein du service de l'architecture suffisent sans être totalement satisfaisantes. Mais les recommandations des monuments historiques à propos des monuments et d'objets mobiliers relevant de la propriété communale n'ont pas toujours été appliquées en raison du principe de libre administration des villes, du contexte de la mobilisation, du manque de moyens et du souci de maintenir le moral de la population. La question des responsabilités et de l'autorité sur les monuments et les œuvres est au cœur des premiers mois de la guerre, surtout face aux rapides avancées de l'armée allemande. Le service français de la protection et d'évacuation des monuments et œuvres d'art de la zone des armées, qui est créé par décision ministérielle en août 1917, permet de poursuivre les mêmes objectifs de préservation avec de nouveaux moyens, notamment l'évacuation, en dehors de la zone menacée. Ce service sera actif jusqu'en 1919 pour assurer la remise en place des œuvres dans leur localité d'origine. Paul Léon, qui est né en 1874 et mort en 1962, qui est normalien et agrégé d'histoire-géographie, est le principal historiographe du service des monuments historiques français. Directeur général des Beaux-Arts, professeur au Collège de France et Grand Croix de la Légion d'honneur, il est élu en 1922 à l'Académie des Beaux-Arts au sixième fauteuil des membres libres. En 1907, après avoir été le directeur de cabinet du sous-secrétaire d'État aux objets d'art, sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, Étienne Dujardin-Baumetz, il devient chef de la division d'architecture. C'est son service qui confie aux architectes en chef des monuments historiques, dont le premier concours de recrutement a lieu en 1893, des chantiers de restauration et la surveillance des monuments. On confie le Nord, la Somme et Saint-Quentin à Henri Deneux, sorti major du concours en 1905. Il sera célèbre pour sa reconstruction de la cathédrale de Reims. Et à l'issue du même concours, Pierre Paquet est chargé des édifices du Pas-de-Calais et des Ardennes et reconstruira Arras après la guerre. Marcoux, une autre personnalité, va jouer un rôle déterminant au début de la guerre, Paul-France Marcoux. Il est inspecteur général des monuments historiques en charge des objets mobiliers depuis 1893. Entre 1905 et 1913, il met en place une administration centralisée dédiée aux objets mobiliers et dotée d'un personnel administratif et scientifique. Il définit les missions de l'inspection et de la conservation des antiquités objets d'art. Par exemple, Paul Ginisty est ainsi nommé comme inspecteur territorialement compétent pour tout le nord et l'est de la France. Localement, Max Bruchet est le directeur des archives du Nord à la veille de l'entrée en guerre. Pendant le conflit, il tiendra tête à l'occupant pour conserver à Lille les archives départementales. Il assure également les missions de conservateur des antiquités et objets d'art du département depuis 1910, mission reconduite pour 4 ans, le 1er avril 1914. Pour gérer la situation extraordinaire de la guerre, les monuments historiques pourront donc s'appuyer sur des bases solides. Un réseau de conservateurs territorialement compétents, des architectes spécialistes, une liste des monuments et objets classés par département, une administration opérationnelle et un inspecteur général coordinateur. Enfin, une législation incarnée par la grande loi du 31 décembre 1913 qui a renforcé par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité la position de l'État par rapport aux administrations locales. Tout en promettant le concours de l'État, l'administration des Beaux-Arts invite les villes à prendre des mesures radicales pour un patrimoine qui leur appartient, mais qui revêt aussi une dimension nationale. Elle le fait dès le 19 août 1914. À cette date, si la Belgique était envahie, aucun point du territoire français n'était encore occupé. Le sauvetage de toutes les collections du Nord et de l'Est était encore réalisable. L'attention s'est portée d'abord sur les principales collections muséales, Lille, Nancy, Reims, Besançon, Épinal, Chalon-sur-Marne et même Troyes. Les conseils, unique moyen d'action légale, sont donnés sous forme discrète pour ne pas blesser les susceptibilités locales. Les architectes en chef des monuments historiques sont envoyés sur le terrain pour prendre les premières mesures d'urgence suite au bombardement, comme à l'église Saint-Éloi de Dunkerque. Henri de Neuf, avant de devenir célèbre par la reconstruction de la cathédrale de Reims après-guerre, intervient dès juillet 1915, comme en témoignent les photographies qu'il a prises et le plan où il a indiqué les parties mutilées de l'édifice. On ne voit pas très bien d'ailleurs. Au niveau de la nef, troisième pilier, vous voyez un petit octogone qui représente une chaire à prêcher. Et en fait, la partie détruite est juste à droite de ce pilier. Elle est légèrement colorée de rose, voilà, sur le plan d'origine. Les pierres sont déblayées et triées à cet endroit. Les tableaux classés sont déposés avec tous les soins de protection désirables au rez-de-chaussée du beffroi et dans les sous-sols de l'hôtel de ville. Pour la chaire à prêcher, exécutée en 1785 par le sculpteur ardennais Titeux, Deneux décide de la faire protéger sur place. Sauvegardée en 1915, elle sera détruite en 1940. En 1914 et 1915, le service des monuments historiques s'est ainsi attaché à soustraire au danger de destruction les objets d'art classés, soit en les protégeant sur place par des coffrages de bois ou par des sacs de sable pour ceux qui étaient intransportables en raison de leur fragilité, de leur dimension ou de leur poids, des groupes sculptés, des chaires à prêcher, des monuments funéraires par exemple, soit en les mettant en sécurité s'ils s'avéraient transportables, des tapisseries, des objets cultuels, des trésors de cathédrale, des vitraux, des statues, des meubles et des tableaux par exemple. Les mesures prises d'abord au gré des initiatives individuelles, puis réalisées avec des moyens précaires par l'administration des Beaux-Arts, qui ne peut se substituer à l'autorité des communes, vont être relayées par la mise en place d'un service extraordinaire pendant la suite du conflit. Entre-temps, en 1915 est créé le service photographique de l'armée, SPA. En effet, le ministère des Affaires étrangères, qui souhaite organiser le discours patriotique par l'image dans les pays étrangers, demande au ministre de l'Instruction publique et plus particulièrement au sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, d'étendre les missions du service photographique déjà institué pour les monuments classés et les dommages de guerre. Les locaux rue de Valois sont prêtés par la direction des monuments historiques. Les opérateurs disposent d'un laboratoire équipé pour développer clichés et tirages des épreuves. La section photographique fusionne en février 1917 avec la section cinématographique de l'armée, devenant la SPCA, qui a été organisée de façon à pouvoir, après la guerre, être transformée en service civil destiné tant à l'exploitation des photographies et des films constituant des collections de guerre qu'à la prise de vue artistique ou documentaire et à l'exploitation des photographies des monuments historiques et des musées nationaux. Cependant, depuis 1916, plusieurs missions d'inspection ont été annulées. La protection des monuments à proximité du front est devenue de plus en plus difficile. Elle doit prendre de nouvelles formes, décrites par Paul-Franz Marcoux dans un projet d'évacuation organisée des œuvres en dehors de la zone menacée. Dans ce rapport, il propose que l'État substitue son action à l'impuissance des communes pour conserver ce qui peut être sauvé, et préconise de trouver un lieu sûr de dépôt dans chaque département et à défaut de transférer les œuvres au musée du Louvre. L'intérêt que portèrent les autorités au sauvetage de la place d'Arras et au dépôt que vous voyez ici installé dans les caves de l'ancien palais Saint-Vaast fut déterminant. Une commission interministérielle, ministère de la Guerre, ministère de l'Instruction publique, présidée par Paul Léon, est mise en place en mai 1917. Elle se réunit environ une fois par mois entre mai 1917 et la fin de l'année 1919. Cette décision constitue l'étape préliminaire à la création du service lui-même, qui est rapidement opérationnel avec une organisation en trois sections, Nord, Centre et Est. Paul Léon estime que ce service doit être constitué militairement pour pouvoir accéder à toutes les localités, disposer des corvées et du matériel de transport nécessaire. Le commandant Welter, qui est le chef du service des régions envahies, permet à de multiples reprises de surmonter les difficultés matérielles, de faciliter la circulation des hommes et des œuvres. L'autorité militaire possède, par ailleurs, des renseignements utiles aux officiers responsables des sections afin d'anticiper autant que possible les actions militaires prévues. Basée à Arras, la section du front nord, située en zone britannique, prend en charge les œuvres des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, et cette section est sous la responsabilité de Fernand Sabaté. Jérôme Guillaume Fernand Sabaté est peintre de métier et prix de Rome en 1900. Il sera décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur pour son action pendant la guerre. Il entre à l'Académie des Beaux-Arts en 1935 au cinquième fauteuil. En tant que chef de section, il doit faire l'inventaire des objets en vue de leur restitution. Le fonctionnement de sa section est connu par des rapports réguliers qu'il transmet à la commission interministérielle d'une part et au service de l'architecture d'autre part. Il s'occupe autant de monuments que d'objets, autant d'objets classés que de collections de musées ou de collections privées et collabore avec les architectes. Les procédures sont méthodiques avec des listes, des itinéraires de tournée, des inventaires, des fiches descriptives, des plans des dépôts, des prises de vue systématiques des œuvres. La section du front du centre, qui correspond au département de l'Aisne, de la Marne et de l'Oise, est confiée à André Collin, qui est architecte en chef des monuments historiques, et ses bureaux sont installés à Soissons. À Verdun, Robert Danis, également ACMH, est le chef de la section pour le front de l'Est, zone constituée des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. Et ici, c'est plutôt une photo anecdotique de la façon dont étaient transportées les œuvres dans les camions de la section du front du Nord, avec comme le souci que les déplacements ne provoquent pas trop d'accidents sur les œuvres d'art. En janvier 1918, Fernand Sabaté donne l'alerte pour les vitraux classés du XVIe siècle de l'église de Laucon dans le Pas-de-Calais, située à moins de 8 km du front. L'échafaudage a été préparé un peu plus tôt, ainsi que les caisses pour l'emballage et le camion pour le transport. L'autel et le dais de procession de l'église, objet classé monument historique, ont été heureusement enlevés et évacués par le service du lieutenant Sabaté avant la destruction de l'édifice qui les abritait. Ici, l'église en ruine. Et ici, le dais avec d'autres objets au dépôt. En prévision des attaques allemandes de mars 1918, la section de Sabaté intervient au tout début de l'année dans la zone littorale des départements du Nord et du Pas-de-Calais afin d'évacuer le patrimoine menacé, comme le monument aux bourgeois de Calais, exécuté en 1889 par Auguste Rodin et inauguré place d'armes à Calais en juin 1895. Rodin est décédé en 1917. La préservation de ce monument en bronze, emblématique de l'histoire de la sculpture française, revêt un intérêt symbolique dans ce contexte. Sur cette photographie, on aperçoit le moment où le monument, une fonte en bronze, que l'on imagine difficile à déplacer en raison de son poids et de son format imposant, a été glissé de son socle en pierre dû à Ernest de Croix pour être transporté et mis en sûreté dans les caves de l'hôtel de ville. Ici, un autre exemple de prise en charge impressionnante d'une œuvre monumentale, les portes de l'église Saint-Vulfran à Abbeville, dans la Somme. L'offensive allemande sur Amiens en mars 1918 entraîne le repli de la section du front nord du dépôt d'Arras. Les œuvres sont ainsi transférées à Abbeville, puis dans la chapelle du collège 2. Sabaté reçoit ici au dépôt d'Abbeville le ministre d'Instruction publique et des Beaux-Arts, Louis Laferre, et le préfet de la Somme. Le caractère alarmant de la situation militaire au printemps 1918 va entraîner une accélération des évacuations. Au fur et à mesure du conflit, la zone d'opération du service s'étend. La zone en question couvre maintenant certains villages situés à 30 km de la ligne de front, alors qu'en 1917, elle équivalait à une bande de 15 km en arrière de la zone des combats. Les photographies suivantes témoignent du quotidien des hommes au dépôt, avec l'atelier de menuiserie, le travail de mise en caisse ou la tenue méthodique des registres d'inventaire. Ici, vous voyez la déposition du tableau de la descente de croix de Rubens à l'église Notre-Dame de Saint-Omer. Le service prévoyait des châssis sur mesure pour transporter les toiles de grand format. Et on voit le tableau au fond du dépôt 2, de la chapelle du dépôt 2. Le dépôt 2 est rempli d'œuvres d'art qui proviennent des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Cette chapelle contient des trésors incalculables, extraits des églises et des musées de toute la région. Comme le maire de la ville l'écrit au ministre, tous les jours, Abbeville, Saint-Valéry et les villes voisines sont bombardées par avions. Il est fort à craindre que nous ayons aussi notre tour. Si jamais une bombe incendiaire tombait sur la chapelle, s'en serait fait de tous les trésors qui y sont accumulés. C'est ainsi qu'une nouvelle fois, les œuvres sont déplacées et que pour répondre à ces craintes, un nouveau dépôt est constitué au château de Martinville, près de Rouen, en avril 1918. Le mois suivant, la zone est officiellement étendue à la Seine inférieure. Un repli éventuel sur Caen ou La Trappe dans l'Orne est même envisagé. Finalement, seul le château classé de Châteaudun, mis à la disposition de l'État par son propriétaire, vient accroître le nombre des dépôts affectés à la section du Nord. À la fin de la guerre, un service particulier complémentaire dit des dépôts de l'intérieur est constitué afin d'assurer la conservation et l'identification des œuvres sauvées, publiques ou privées. Les collections artistiques de Berg et du musée préhistorique de Boucher de Perthes à Abbeville sont déplacées au château de Châteaudun. Ici, en fait, c'est le dépôt de Martinville que vous avez sous les yeux. Au château de Malmaison, les souvenirs napoléoniens de Boulogne et de Nancy, à Fontainebleau et à Dijon, retrouvent un temps les collections des musées de Châlons et de Reims. Le pavement de Saint-Rémy de Reims, des statues et des fragments provenant de la même ville. Autre dépôt de l'intérieur, le château de Blois, qui accueille les pièces du mobilier national, les collections du musée de Beauvais, les toiles marouflées de Puvis de Chavannes du musée d'Amiens. Pour conclure, je voudrais ajouter deux, trois points. À l'époque où s'effectua le repli général du service de protection des monuments et œuvres d'art, les objections primitivement élevées contre l'intervention de l'État par les établissements publics propriétaires étaient en effet tombées. L'extension du danger a contraint les communes à accepter et souvent à solliciter le concours du service institué à cet effet. L'heure n'était plus aux tergiversations qui, en 1914, ont entraîné la ruine du musée archéologique de Reims, celle du musée d'Arras, la prise de musée de Lille, Valenciennes et Saint-Quentin, pour ne citer que les plus saisissants. Le nombre des œuvres évacuées est évalué à environ 30 000 sur toute la ligne de front. Les évacuations précipitées vont générer dans les années d'après-guerre un travail de remise en place long et difficile. L'armistice signé, le service de protection et d'évacuation s'occupe jusqu'en 1919 des travaux urgents de consolidation, de déblaiement, de réception et de prise en charge des objets restitués par l'ennemi. Une enquête est lancée en vue d'établir les dommages causés aux monuments et aux œuvres, afin de dresser une liste aussi des œuvres détruites, volées ou disparues. La direction des Beaux-Arts, et plus particulièrement Paul Vitry, qui intègre un an plus tard le département des sculptures du musée du Louvre, est chargé en 1919 de l'identification et du rapatriement des œuvres d'art françaises qui ont été regroupées dans les dépôts formés par les Allemands à Maubeuge, à Sedan, à Namur et à Bruxelles. Enfin, la commission interministérielle de protection et d'évacuation élargit ses missions à la conservation des souvenirs et vestiges de guerre qui va se révéler une autre vaste entreprise.
Je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez dit. Certes, on s'est douté que toutes les mesures avaient été prises tant du côté allemand que du côté français, mais les photos que vous nous avez montrées, tout ce que vous nous avez dit, sont tout à fait extraordinaires. Et voilà, heureusement qu'il y a eu toutes ces actions pour tout de même atténuer un peu tous les malheurs de la guerre. En tout cas, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez dit. Peut-être y a-t-il des réactions de nos confrères ? Oui, monsieur le perpétuel ?
Je vais raconter une anecdote. C'est dans une petite église de l'Aisne que se trouvait une toile attribuée, je crois, à Rubens. Et naturellement, cette toile a disparu pendant la guerre. Et c'est notre autre grande surprise. Dans les années 1958, que la toile est revenue. C'est-à-dire que l'officier allemand qui l'avait confisquée en quelque sorte et ramenée en Allemagne a été pris peut-être de remords et a jugé se mettre, j'allais dire, en règle avec le Très-Haut et a rendu donc cette peinture. Voilà une toile qui avait totalement disparu et qui est réapparue, j'allais dire, discrètement. Une trentaine d'années après.
C'était
le château de Thierry.
Je voulais poser une question un peu personnelle, parce que j'aime beaucoup le sculpteur Ligier Richier, et il a été question de la crucifixion de Ligier Richier. Où se trouve-t-elle actuellement ? Est-ce que vous le savez ?
Alors, peut-être que Anne Labordette peut répondre mieux que
alors,
moi.
Je répondrai rapidement. Là, donc, c'est le retable de la Passion qui se trouvait au moment où Johann Baptist Coin l'a fait déposer à Metz. Oui. Elle se trouve dans l'église, dans la collégiale Saint-Maur d'Hattonchâtel. Malheureusement, Hattonchâtel fait partie de ces villages français qui ont énormément souffert des premiers mois de combat de la guerre et qui vont d'ailleurs souffrir tout au long de la guerre puisque c'est un village quasiment rasé en 1918 et qui est d'ailleurs reconstruit puisque cette collégiale Saint-Maur, le cloître adjacent est classé monument historique. Et donc ce village est reconstruit à partir des années 1921 si ma mémoire est bonne, notamment parce qu'une riche héritière américaine, c'est une histoire fabuleuse mais c'est vrai, eh bien, a donné une somme importante à la commune pour essayer de reconstituer le plus possible à l'identique la topographie et les rues du village. Et donc, je crois qu'elle est reposée, enfin, si je parle sous contrôle de mes commissaires, le retable est replacé après la guerre à Hattonchâtel.
À quel endroit exact, alors ?
Dans la collégiale Saint-Maur.
collégiale Saint-Maur. Et où ?
À Hattonchâtel. Donc c'est un petit village qui est en hauteur, entre Verdun et Metz, pas très loin de Saint-Mihiel. Je ne sais plus si on le voit peut-être sur une des cartes qui a été projetée.
Oui, c'est à Saint-Mihiel.
J'espère que si on a bien vu. Ah, oui.
Ce squelette.
Oui, non. Oui, mais ça, c'est une autre sculpture.
C'est à Saint-Mihiel, mais c'est du même...
Voilà. Oui, c'est du même auteur. Oui.
C'est pas très loin, en fait. Voilà, c'est à Hattonchâtel, évidemment, n'apparaît pas sur la carte, autant pour moi. Donc, on est en fait entre Verdun et Saint-Mihiel, à Hattonchâtel, et évidemment en plein sur les lignes de mouvement de déplacement du front.
Ah oui, très bien. Ah oui, c'est à côté de Saint-Mihiel.
Voilà, à côté de Saint-Mihiel.
Parce qu'à Saint-Mihiel, il y a une déposition qui est extraordinaire, que je connais bien.
Et qui est justement protégée tant par les Français que par les Allemands. Cette fois-ci, c'est un sépulcre, c'est un grand groupe sculpté. Et alors là, il y a une espèce de concurrence. Alors, il y aurait tellement de choses à dire que sur
mais allez-y, allez-y, c'est le moment.
Donc, il y a ce sépulcre qui est dans l'église Saint-Michel de Saint-Mihiel, église qui est malheureusement bombardée en 1915, enfin, entre autres, et la toiture s'effondre. Et du coup, les Français, sur place, je crois que c'est eux les premiers qui commencent à protéger, et qui vont s'opposer quand Johann Baptiste Koen, à partir du moment où la ville passe sous domination allemande, ils vont s'opposer à ce qu'il démonte le sépulcre. Je ne sais pas très bien pour quel motif, donc le voilà, le voilà protégé plutôt. Et donc Johann Baptiste Koen fait poser entre cette grille du XVIe siècle et le sépulcre qui est de la première moitié du XVIe, ces sacs de sable, et il les fait aussi poser le long de la paroi extérieure. Il y a aussi une très belle photo qui est conservée à Metz où on voit tout ça. Et alors, dans les archives que Gaël conserve, on voit une photographie, cette fois-ci prise par le service français de protection et d'évacuation des œuvres d'art, donc à la fin de la guerre en 1918, et ils sont revenus reprotéger à nouveau ce sépulcre, donc à Saint-Mihiel, cette fois-ci.
Il a traversé la guerre de
40. Oui.
Je vous remercie. Il y a d'autres...
C'est une question. C'est au moment de la Convention de Genève qu'on a décidé de la protection des monuments historiques entre les différents pays belligérants. Et ça porte, j'imagine, sur l'Europe, cette Convention de Genève. Où sont les limites? Est-ce que la Russie y participe? Parce que c'est assez fascinant. Quand on voit les films qui passent actuellement, qui passent sur l'écran de télévision et qu'on voit les massacres, et on se dit que parallèlement à la guerre... Il y a des hommes de qualité qui réfléchissent à comment on peut, au milieu de ces désastres, arriver à sauver quelques œuvres d'art. Je voudrais qu'on parle un peu du chapitre protection des œuvres d'art dans le cadre de la Convention de Genève, si vous la connaissez.
Oui, il ne s'agit pas de la Convention de Genève, mais la Convention de La Haye. De 1907 et qui a été révisé en 1954 sous l'égide de l'UNESCO et qui est encore valable aujourd'hui, qui a été complétée, etc. Mais elle est encore valable. Alors, en ce qui concerne la Russie, je ne sais pas si la Russie a signé cette convention, mais par exemple, les États-Unis, non. N'ont pas signé, mais sous réserve. Je ne peux pas vous répondre.
Alors en fait.
Ça n'a pas empêché la destruction des Bouddhas à Blanc. On a beaucoup critiqué la destruction des Bouddhas à Blanc. Ce que nous avons fait en Europe en 1440, rien à voir. Là, c'est un mauvais sens pour l'Europe.
Ben en fait, vous posez une question très intéressante. C'est sous quel régime juridique, en fait, quel régime juridique s'applique à ces destructions, quelque part? Quel régime juridique s'applique, et là, ça a été très compliqué pour nous, aux œuvres dont vous parliez, monsieur le secrétaire perpétuel, qu'on pense disparues et qui réapparaissent aujourd'hui. Donc, cette convention de la Haye était censée, en 1907, anticiper le problème, mais ne le réglait pas vraiment. De toute façon, c'était par définition difficile. Et en 1954, donc, nouvelle convention de la Haye. Et vous savez que depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui, une série de conventions internationales ont été signées, souvent sous l'égide de l'UNESCO, parfois à l'échelon européen. Le problème, c'est que ces conventions n'ont pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire que, par exemple, pour une convention qui est ratifiée encore quand elle l'est, en 1990, les œuvres qui ont disparu avant ne sont pas du tout couvertes par le protocole juridique que la convention détaille. Et donc, pour les œuvres qui ont disparu en 1918, on ne peut pas invoquer la convention de La Haye puisqu'elle interdisait les saisies, c'est tout ce qu'elle se borne à faire. Que la plupart des œuvres dont on a parlé aujourd'hui n'ont pas été saisies officiellement, mais en fait ont disparu dans le cadre de vols, tout simplement. Très souvent aussi, ça c'est un cas de figure qu'on trouve, parce que des officiers allemands ou des soldats allemands ou des soldats britanniques ou français passaient par là, étaient sur les zones de guerre, ont sauvé ce qu'ils ont pu, les ont mis à l'abri chez eux et ont toujours pensé qu'ils le rendraient. Et donc, à l'exposition de Douai, on présente comme ça quelques objets que les familles ont rendu, mais 80 ans, 90 ans, 100 ans plus tard parfois, aux villes qui en étaient propriétaires ou où elles se trouvaient au moment de la Première Guerre mondiale. Mais juridiquement, il n'y a pas en fait de convention qui permet la restitution des œuvres volées ou disparues ou en partie détruites et qu'on retrouve au moment de la Première Guerre mondiale. S'appliquent en fait les juridictions nationales. Et c'est tout le problème, puisque la juridiction française, elle prend fin aux frontières françaises. Et faire reconnaître ce droit-là aux États-Unis ou en Allemagne, pour 1918, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y a encore quelques... Oui, monsieur.
Personnellement, j'ai été très impressionné de l'importance de cet effort de préservation. Je ne l'imaginais pas aussi grand. Vous avez parlé de 30 000 heures, je crois. A-t-on une idée, une estimation, à la lumière des inventaires qui ont pu être dressés, de ce qu'on a pu sauver par rapport à ce qui a disparu, ou qui a été détruit, ou qui a été volé? En gros.
Le travail très fin de reprise de tous les inventaires n'est pas encore fait, était encore à faire. Mais globalement, je pourrais m'avancer en disant qu'une grande partie des œuvres ont retrouvé leur commune d'origine. Néanmoins, il y a encore des œuvres considérées comme disparues, voire détruites, mais qui ne sont pas détruites, mais disparues. Mais la proportion est sûrement... On peut quand même penser que la majorité des œuvres ont été sauvées.
Je vous remercie. D'autres, mais... qui se trouveraient encore en Allemagne aujourd'hui.
Ça, c'est la question à poser. Alors, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des œuvres qui dorment encore dans des greniers, des familles ou sous la poussière. Ça, c'est pas du tout exclu.
Mais, alors, c'est effectivement non seulement...
On ne saura peut-être jamais...
Non seulement c'est pas exclu du tout, mais de fait, c'est vraisemblablement le cas. Dans quelle proportion, ça, on ne peut pas le savoir. Premièrement, parce que quand les œuvres ont été vraisemblablement volées et ramenées en Allemagne, l'Allemagne a subi ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, une série de destructions, là aussi, immobilières et mobilières d'ampleur. Donc ce que je pense, moi, mais ça n'engage que moi, et c'est absolument pas des propos vérifiés, je pense qu'une grande partie des œuvres qui ont disparu à cette époque ont été détruites en réalité pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Mais, tant nous, à Douai, on commence simplement à approcher le chiffre exact des œuvres disparues du musée de Douai pendant la Première Guerre mondiale, quasiment 100 ans après les faits. C'est sûr, entre-temps, le musée a été bombardé, a été détruit en 1944, il s'est passé d'autres choses, mais c'est pour vous dire, vous avez posé la question qui fâche en réalité, puisque, en fait, nous sommes en plein dans ce travail-là, et il n'est toujours pas achevé 100 ans après les faits. Et donc, quant aux œuvres qui se trouveraient en Allemagne, c'est quand même révélateur que les quelques œuvres qu'on ait retrouvées sur le marché de l'art ces dernières années, ou qui nous ont été restituées par un musée allemand, ce qui va être le cas pour l'exposition Sauf qui veut, eh bien, la plupart du temps, quand on se renseigne sur la nationalité du vendeur allemand, alors aussi bien quand il vend aux États-Unis qu'en Allemagne ou en France ou à Londres, et oui, la plupart du temps, on a affaire à des vendeurs allemands. Donc je pense, oui, qu'il y a encore des œuvres qui se trouvent en Allemagne. Je pense qu'il y en a beaucoup moins que celles qui ont été volées à l'époque. Je pense qu'on a eu aussi, parce que l'histoire a joué après pendant la Seconde Guerre mondiale, et je terminerai par une petite anecdote.
Peut-être que je vais donner une piètre image de la manière dont on travaille dans mon musée, mais bon, on s'est aperçu que sur la liste des dommages de guerre, donc qu'on a réclamé aux Allemands en 1920, que la ville de Douai a réclamé aux Allemands en 1920, pour laquelle la ville a été indemnisée, eh bien, se trouve une très belle vue du port de Livourne. Enfin, très belle, on ne savait pas, on pensait que les Allemands l'avaient volée, et puis bon, qu'on ne la reverrait jamais. Et en fait, on l'a retrouvée dans nos réserves, il y a 3 ans. Voilà, donc, dans un état catastrophique, l'état était proche de la Serpillière, on identifiait mal la Seine, et on trouve des courriers où cette œuvre est mentionnée, et où le conservateur français de l'époque du musée de Douai, voilà, accuse très clairement les Allemands de pillage, de spoliation de grande ampleur, enfin. Et en fait, cette œuvre était là, et juste, on ne l'avait pas reconnue. Et puis donc voilà, attention à ce qu'on peut mettre sur le dos des Allemands. Et dernière anecdote, un musée américain nous a restitué l'année dernière une petite statuette gallo-romaine du 1er siècle après Jésus-Christ, une très belle statuette d'Antinoüs qu'on a pensé détruite cette fois-ci en 1944 dans l'incendie du musée, mais en fait ça avait été volé par un Français en 1901. Donc il y a vraiment encore un travail d'ampleur à faire dans nos musées, dans les musées du Nord et de l'Est de la France, qui ont été touchés par ce dont Christina et Gaëlle ont parlé. Et quant à la Seconde Guerre mondiale, je n'ose même pas imaginer. Voyez, on va essayer de tout faire avec l'Association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais, justement pour qu'en 2018, on puisse publier les premières listes. Mais comment vous dire, je suis très optimiste avec cette date de 2018. Je pense qu'il faudra encore attendre une dizaine d'années.
Il est vrai que le destin des œuvres d'art est quand même extraordinaire. Moi, je me souviens, quand je travaillais chez Gallimard à des livres d'art, et c'était sur les Assyriens. Et alors, il y avait un bas-relief donc assyrien que j'ai trouvé intéressant. Et alors, à un moment, je demande où il est. Et alors, on me dit, ah ben, c'est une équipe d'archéologues allemands qui l'avait trouvé. Et ils l'ont ramené à Berlin. Mais à Berlin, il y a eu un bombardement allié. Et la chose est dans la Spree actuellement. Elle doit être dans le... Bref. Ce pauvre bas-relief assyrien est peut-être encore dans le fleuve à Berlin. Voilà.
Ceci dit, on est quand même sidéré qu'un an après, je ne sais pas où on est quand même sidéré que plus d'un siècle après, on ne soit pas capable de dire quelle est l'ampleur des pertes des musées de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Franchement. C'est pas la gloire de l'administration française globalement, madame, et pas simplement des conservateurs, qui est quand même assez pléthorique. Moi, je suis sidéré. Alors, vous avez parlé d'une commission de 1996. C'est vous, non ?
Non, en 1996, la médiathèque commençait les inventaires du fonds d'archives.
Je suis stupéfait qu'une commission pareille soit mise en place en 1996, ou bien j'ai rien compris à ce qu'elle était. C'est pour mesurer l'optimisme de monsieur quant à Grêle, qui nous expliquait qu'il était émerveillé par les mesures qui ont été prises, qui, pour moi, m'ont donné le sens d'une improvisation constante, au contraire. Alors, vous avez, madame, parlé de tableaux au début qui ont été pris pour être pris en gage contre les prises napoléoniennes. Mm-hmm. Première question, est-ce que vous avez des évaluations allemandes de ce qui reste chez nous qui aurait été pris à l'époque de Napoléon ? Vous voyez, c'est pour vous donner... quelques circonstances atténuantes, dont je crains qu'elles soient quand même assez mineures. Et deuxièmement, vous avez dit que, mais ça c'est les conclusions de la manière dont le traité de Versailles a été appliqué dans tous ces domaines, l'Allemagne a bien voulu restituer, enfin dédommager la Belgique de ses œuvres d'art, enfin pour les œuvres d'art détruites, mais n'a pas voulu le faire pour la France. Pourriez-vous sur ces deux points nous apporter des éclaircissements ?
Je commence par la deuxième remarque. Ce n'est pas les Allemands qui ont refusé de...
Bon.
C'est en fait, il est apparu clairement dans les négociations pour la paix que surtout les Britanniques et les Américains ne voulaient pas entériner ce genre de principe de compensation en nature, sauf donc pour la Belgique qui a eu un lobby très fort pendant ces négociations et qui a réussi à faire glisser dans les stipulations, dans les clauses du traité, cette compensation en nature. Mais c'était surtout donc le scepticisme des Britanniques et des Américains qui avaient peut-être un peu peur que ça se propage, ce genre de pratique, et qui avaient peur aussi que le marché de l'art en pâtisse. Et toutes les relations artistiques à reconstruire. Donc c'est surtout pour ces raisons-là.
Très intéressant de voir que même dans le domaine de l'art, dès l'encre du traité de Versailles à peine sèche, les Britanniques et les Américains démarrent une politique très anti-française et en réalité pro-allemande. Je ne savais pas que c'était aussi dans le domaine de l'art, on l'a vu dans le domaine de l'armement, dans le domaine des alliances, qui a conduit au désastre suivant. Mais c'est intéressant de noter que même dans le domaine de l'art, on avait la même attitude des Britanniques et des Américains. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que l'on a chez nous, selon vous?
Je ne peux pas vous donner des chiffres, mais ce qui est important de savoir, et très intéressant aussi, c'est que je recommence en 1815. Entre 1815 et, disons, grosso modo, 1870, cette question n'intéressait guère les Allemands qui préféraient venir à Paris pour voir ce qui était exposé de leur patrimoine artistique. C'était beaucoup plus intéressant pour eux. Mais ce désintérêt pour le patrimoine national, entre guillemets, a changé en 1870-71. Et c'est à ce moment-là que les premières listes d'œuvres à récupérer ont été établies. Mais seulement les négociations de paix n'ont pas fait apparaître ces revendications allemandes pour des raisons qu'on n'a pas encore tout à fait épluché. Et donc, ensuite vient 14-18, et M. Bode, encore une fois, revient à la charge, mais n'arrive pas à faire valoir ses revendications. Et en 40-44, rebelote avec le fameux rapport Kümmel. Kümmel, d'après donc le directeur général du musée de Berlin, donc ça se transmet de directeur à directeur, qui a été donc chargé d'établir encore une fois des listes d'œuvres et de manuscrits et d'autres objets patrimoniaux. Mais je ne peux pas vous dire quelle était l'étendue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple les musées bavarois avaient établi des listes assez importantes d'œuvres d'art. Donc, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine d'œuvres de valeur. Parce qu'il faut aussi voir quelle est la valeur des objets. Et parce que le nombre, la question du nombre est difficile il est difficile de répondre parce que pour les monnaies, par exemple, comment voulez-vous établir le nombre? Ça peut être 10 000, ça peut être... Voilà, donc il faut voir quel... Oui, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Oui, bien sûr, il y a aussi des tableaux qui ont atterri à l'Ermitage. Donc voilà, tout ça est très compliqué, mais aujourd'hui, on peut étudier ces questions sous l'angle de la circulation des œuvres d'art. Et même si je suis évidemment d'accord avec vous que peut-être du côté des Britanniques et des Américains, il y ait eu quelque chose comme une envie de voir l'Allemagne se reconstruire et donc au défaveur de la France. Mais je pense que c'était cette idée-là de la libre circulation des œuvres qui était à la base de leur décision. Contre les nationalismes. Et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, est intéressant à étudier.
Est-ce qu'il y a... Oui.
On a en fait surtout parlé des œuvres d'art mobilier. Moi, je suis architecte. Alors, je me dis, mais j'imagine qu'il y avait un consensus parmi toutes les élites militaires, intellectuelles, pour dire ben, les œuvres qui sont monuments historiques, pour parler simple, je ne sais pas si ça existait, si le classement existe en Allemagne. Mais je me dis, allons un peu plus loin, je pense qu'en Europe, Dieu merci, on échappera à ça, mais ça s'arrête tout, la protection des bâtiments, je veux dire, il y a des œuvres d'architectes contemporains, enfin contemporains morts, mais qui ont réalisé des choses remarquables, qui sont inscrites ou qui le seront au patrimoine mondial de l'humanité. Est-ce qu'il y a dans les états-majors au niveau suprême des gens qui réfléchissent sur la production des bâtiments qui ne sont pas classés monuments historiques au sens traditionnel du terme, tout ce qui disons, est du 13e, 14e, 15e siècle sur lequel il y a un consensus, mais des œuvres du 19e siècle, du 20e siècle, et peut-être un jour du 21e siècle. Comment les militaires se penchent sur ces questions avec les conservateurs, les artistes? Je parle des bâtiments.
À vous.
C'est vrai que c'est une vraie question, la protection des monuments historiques. D'abord, la question s'est posée rarement, si je puis dire, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que l'humanité a fait des progrès considérables pour protéger les œuvres d'art. On a des exemples, d'ailleurs, très, 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 très connus, tant du côté allemand que du côté allié, notamment après le débarquement, où des Américains ont délibérément déplacé des offensives ou des bombardements pour protéger des œuvres. Ça n'a pas été le cas en Allemagne, parce que l'ampleur du désastre était telle que on découvrait évidemment avec l'armement nucléaire, mais le souci de la protection du patrimoine est une vraie réalité prise en compte dans le ciblage. Moi, je peux vous dire que dans les ciblages théoriques français actuels, parce que le métier des militaires, c'est quand même de prévoir des événements dont on souhaite qu'ils ne se produisent jamais. C'est la raison pour laquelle nous existons, d'ailleurs. Et la dissuasion, c'est de faire en sorte que notre existence rend ces événements impossibles. Tous les ciblages évitent, évidemment. Mais la fureur de la guerre peut balayer ça en un instant. Je rappelle quand même que pendant qu'on sauvait ces œuvres d'art, il y avait quand même 1000 Français tués chaque jour, entre 1914 et 1918. 1000 Français tués chaque jour. Bon. On dit que c'est entre les intentions pures et la fureur de la guerre et la dévastation. Mais c'est vrai que l'humanité a fait des progrès considérables, notamment qu'avec la Convention de Genève, la Convention de La Haye, etc. Mais vous garantir qu'on ne le ferait pas. C'est tout à fait intéressant. Vous nous avez montré l'abbaye d'Orval, c'est ça? Mm-hmm. Tout à fait intéressant que les mêmes qui l'ont détruite viennent pleurer dans la seconde qui suit pour faire les plans, quoi. On aurait pu se dire qu'on aurait pu éviter peut-être de la détruire.
Là, je vous interromps parce que.
Je termine. Vous avez montré, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'a compris parce que c'était en russe. On voyait Guillaume II regardant l'incendie de la cathédrale de Reims, et en russe c'était marqué le Néron du jour, ce qui est marqué en russe à côté là, Néron Odien. Voilà, donc théoriquement la réponse est oui, mais je doute que la fureur des hommes,
vous savez, entre 1000 hommes qu'on tue et un tableau de Rubens.
Alors, c'est justement la question que pose l'exposition, puisque effectivement, on a ciblé sur les actions que Gaëlle et Christina ont présentées, mais effectivement, on le rappelle en arrière-plan, il y a d'abord une guerre, il y a d'abord un conflit, et c'est dans ce cadre-là que les œuvres et les monuments sont détruits. Je voudrais juste réagir à deux choses, et je vais laisser Christina répondre sur l'abbaye d'Orval. Premièrement, bien entendu, pour vous inviter tous cordialement à visiter le musée de la Chartreuse de Douai, qui est un monument historique magnifique, et cette exposition, pour peut-être un peu défendre l'honneur de l'administration française, même si je ne me sens pas attaquée ce jour. Effectivement, 100 ans après, alors j'ai été peut-être un peu vite, à la sortie de la guerre, il y a des listes de dommages de guerre qui sont publiées, qui sont établies assez précisément pour l'époque, compte tenu du fait qu'à l'époque, on photographiait beaucoup moins les collections de musées qu'aujourd'hui, que très rapidement, les conservateurs se sont plutôt penchés sur la reconstruction, la reconstitution des collections, et que malheureusement, très rapidement, en 39-40, et puis en 1944-45, c'est reparti pour un tour. Le musée de Douai, par exemple, qui a été pillé, bien lui, il est complètement détruit. et que cette question aujourd'hui de la disparition des œuvres, de leur provenance, c'est une question, ça va peut-être vous paraître étrange, pour les historiens d'art non, mais elle est relativement neuve et elle vient en fait dans le champ historique à la fin des années 90, au moment où on parle de la provenance des œuvres spoliées par les nazis sur le marché de l'art. Et à partir de cette histoire-là, on va commencer à se rendre compte que peut-être certains musées français conservent des œuvres spoliées dont ils ne sont pas, dont leur collectivité n'est pas le propriétaire légitime. Et c'est à partir de ce moment-là que se sont mises en place toutes ces procédures de récolement d'inventaire. Et aujourd'hui, notre travail, je pourrais vous donner une liste d'œuvres disparues en 1918 du musée de Douai, mais je sais qu'elle n'est pas exacte. Et j'espère qu'on va pouvoir la publier exactement. 18. Et
Madame là, je laisse... la conservateur, vous avez sauvé l'honneur de l'administration française.
Écoutez, monsieur le grand chancelier, merci. Je vais peut-être laisser Christina répondre sur l'abbaye d'Orval.
Ah non, non, mais juste, mais c'est drôle parce que vous aviez dit, voilà, ils se font prendre en photo devant les ruines qu'ils viennent de créer, en quelque sorte. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'était des ruines qui étaient déjà, c'était une abbaye qui était déjà en ruine et notamment qui avait été détruite par les troupes françaises. et les Allemands se servent aussi de cet argument pour montrer, voilà, nous, on ne détruit pas, on conserve. Et en effet, c'est ce que je n'avais pas dit.
Attention, parce que le match peut être difficile. Sauf que vous aviez volé la Belgique, ce dont les historiens pensent que c'est ce qui a enclenché en réalité. Plus que l'occupation de la Serbie par l'Autriche, la guerre de 14, oui, qui a conduit les Français à décrire la
bien l'abbaye. Sûr, on ne va pas rentrer dans ces.
Oui, là, je crois que nous sommes. Là, nous prenons une route dangereuse, là, je crois.
Pour ajouter, parce que les Allemands en ont profité de l'intérêt, enfin, de la nécessité de consolider ces ruines. Pour y participer en quelque sorte, parce que en effet, et j'ai pas montré la photo, mais c'est l'administration allemande qui a coopéré avec la commission belge des monuments et des sites pour consolider en pleine guerre entre 1916 et 1917 ces ruines. Donc ça paraît complètement aberrant, mais ça a été aussi à côté des milliers de morts tous les jours, ça s'est passé aussi.
Bien, je crois que on va vous remercier. C'était tout à fait passionnant et intéressant. Et justement, ce sont des choses que finalement on ignore. Et voilà, maintenant nous en savons plus sur cette histoire de la guerre de 14, qui est au fond le sujet qui nous intéresse cette année. Voilà. Je vous remercie beaucoup.